Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à notre radio web et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. En 1990, dans un ouvrage célèbre intitulé Fallen Soldiers, l'historien américain George Moss se proposait de revoir la mémoire des deux guerres mondiales. Dans cet ouvrage, absolument essentiel, l'auteur expliquait comment la guerre était devenue, avec la Révolution française jusqu'en 1945, un véritable mythe, une forme de religion, avec ses valeurs visant, je cite, à masquer le réel et à le légitimer. La mémoire de la guerre, ses massacres de masse, sa violence, en devinrent une sorte d'expérience sacrée, au point aussi d'en être banalisée. Cependant, l'ouvrage de Moss avait un défaut. En effet, il avait laissé de côté une nouvelle forme de guerre, sourde, intérieure, s'attaquant autant aux civils qu'aux autorités politiques, j'ai nommé le terrorisme. Les événements que le monde vit depuis le 11 septembre, ajoutés à la conception binaire de Samuel Huntington sur le choc des civilisations, nous feraient presque oublier une vérité historique. Le terrorisme est aussi l'apanage des sociétés occidentales. De la Russie tsariste à la France de la Troisième République ou des années 60, des États-Unis d'Amérique à l'Irlande du XXe siècle en passant par l'Italie ou encore l'Allemagne, le terrorisme a été un des avatars de nos sociétés occidentales. Et c'est précisément sur ce lien entre Occident et terrorisme que Storia Voce va s'arrêter aujourd'hui avec Didier Musieldac. Didier Musieldac, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour à vous. Merci de cette invitation.
Eh bien, merci d'y avoir répondu. Vous êtes professeur à Nanterre, à l'université de Paris-Nanterre, et vous êtes l'auteur du livre « L'atelier occidental du terrorisme, les racines du mal ». Alors, c'est un ouvrage, je le disais dans mon introduction, qui, de mon point de vue, s'inscrit dans la continuité des travaux de Moss, les prolonge et crée ce lien essentiel entre terrorisme et Occident. Le terrorisme, vous le dites, est indissociable des sociétés occidentales.
Tout à fait. Je crois que il y a, et je ne suis pas le seul à le dire, il y a une part d'ombre dans la culture occidentale, que d'ailleurs George Moss avait contribué à un peu dévoiler, il avait, comme vous l'avez fortement indiqué, déjà montré que cette société occidentale, au minimum, était bi-France, qu'elle avait apporté beaucoup sur le plan des droits de l'homme, sur le plan de l'égalité, etc., mais qu'en même temps, elle avait, j'allais dire, fonctionné comme une matrice de destruction. Alors cette matrice de destruction, il l'avait interrogée à travers la culture allemande, la société allemande, et puis il avait porté son regard, effectivement, sur la Première Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que c'est interrogé sur le processus de militarisation des sociétés nées avec cette Première Guerre mondiale, et puis aussi les conséquences de cette militarisation, je dirais, durant l'entre-deux-guerres. Et là, il nous montrait un autre visage, et la question, je crois, qu'il faut se poser, c'est de savoir tout d'abord en amont pourquoi les sociétés occidentales, qui au départ sont des sociétés à prétention égalitaire, vont basculer dans un monde qui va enfanter le totalitarisme. Ce qui nous pose à nous, les historiens, et aussi les sociologues, les ethnologues, savoir au fond, c'est quoi l'homme occidental ? Est-ce que c'est un homme ouvert uniquement sur le progrès, ou y avait-il une face déjà cachée avant la Première Guerre mondiale concernant ce fameux prototype cet homme occidental.
Alors nous allons bien évidemment y revenir. Peut-être un élément important, votre ouvrage n'est absolument pas une histoire du terrorisme.
Absolument.
Vous Vous décortiquez la matrice intellectuelle du terrorisme.
Tout à fait. Ce n'est pas une histoire linéaire. Vous avez d'excellents ouvrages, et en particulier, je voudrais souligner l'apport de Gilles Ferragu, qui a fait un travail remarquable.
Que nous avons reçu à ce micro. C'est une des émissions d'ailleurs les plus écoutées.
Et il a fait un livre absolument remarquable sur ce plan. Mon idée, elle n'est pas tout à fait celle-là. Vous avez tout à fait raison. Le sens de ma démarche, c'est de poser la question centrale, de savoir si, dans la culture occidentale, dans l'histoire occidentale, il n'y a pas eu à un moment donné une rupture. Cette rupture, je l'inscris pour ma part au moment du développement du capitalisme, de l'accélération du capitalisme, à un moment donné où les sociétés occidentales commence à voir toutes les valeurs traditionnelles basculer. Et ce thème de la rupture au sein de la culture occidentale et de l'histoire occidentale a été repris, comme vous le savez, en particulier par Hannah Arendt, mais aussi par Kornhauser, qui publie en 1949, si mes souvenirs sont bons, un ouvrage intitulé « The Politics of Masses », où il montre que, précisément, il y a là une rupture essentielle, c'est le passage à la société de masse. Et ce passage à la société de masse, finalement, on avait eu tendance, nous, à le poser, je dirais, beaucoup plus tard dans le XXe siècle, et il commence à intervenir, précisément, à mon sens, avant la Première Guerre mondiale, tout simplement parce que l'individu lui-même perd ses points de repère. Il y a un processus d'atomisation sociale qui fait que la guerre venant dessus, si je puis dire, va amplifier cette anomie sociale et va aboutir au fait que, précisément, vous avez là, et Hannah Arendt sur ce plan avait raison, même si on peut discuter un certain nombre de ses thèses, elle avait raison sur ce point essentiel, c'est que le monde occidental est malade en 14, et qu'au fond, le totalitarisme apparaît comme le fruit de ces sociétés qui sont profondément malades. Et donc vous avez une série d'ouvrages. Il suffit de se rapporter par exemple à la révolte des masses d'Ortega y Gasset qui sort en 1929, vous avez une série d'ouvrages, vous avez les contributions d'Hermann Bloch sur la psychologie aussi des masses, vous avez beaucoup de travaux dans la fin des années 20 et des années 30 qui se repenchent justement sur cette culture occidentale, sur cette civilisation occidentale et qui se disent « attention, il s'est passé à un moment donné une césure que nous n'avons pas assez prise ».
Mais alors, dans, je me souviens très bien d'une recension d'une grande historienne que je ne vais pas citer parce que ça serait lui faire trop d'honneur, mais elle faisait une recension du livre de Mauss et elle oubliait toute la première partie sur la Révolution française.
Absolument.
La Révolution, parce que là vous parlez de la Première Guerre, la Grande Guerre. Or, la Révolution et sa visée universaliste.
Tout à fait.
A une place dans cette matrice.
Tout à fait, vous avez tout à fait raison. La Révolution française est absolument, joue un rôle de précurseur dans ce processus, tout simplement parce que elle inscrit, en fait, un élément qui est fondamental, c'est un processus de sacralisation des catégories du politique, et qui fait qu'à partir du moment où nous sommes entrés dans la Révolution française, le politique devient sacré, la cause politique devient sacrée, et à partir de ce moment-là, on est prêt à sacrifier sa vie, justement pour cette cause. Et là, nous avons quelque chose qui va traverser tout le XIXe siècle, qui va aboutir à la guerre de 14, et qu'on va retrouver en particulier auprès des révolutionnaires russes d'avant 14. C'est pas hasard, au fond, hein, si on a tendance à considérer que la Russie tsariste est la matrice du terrorisme moderne. Pourquoi ? Parce que on a déjà, avant 14, tous les éléments qui concourent à définir notre terrorisme d'aujourd'hui. Nous avons en fait comme élément l'internationalisation, vous avez le thème du sanctuaire, vous avez le recours à la terreur de masse. Avant 14, on se contente pas simplement de tuer, je dirais, le représentant de l'État. Nous sommes plus dans le domaine du tyrannicide. Nous sommes dans un domaine où on peut, on entre dans un théâtre, on entre dans un restaurant et on tue le bourgeois. On tue le bourgeois parce que bourgeois. Les anards, nos fameux anards qui ont déversé, je dirais, beaucoup de malheur en France, mais pas seulement en France. Ces anards occidentaux, ils font exactement la même chose. C'est la frappe anonyme contre l'individu. Plutôt bourgeois, évidemment, de nature. Le totalitarisme lui ajoutera d'autres éléments qui ne sont pas liés simplement à l'état d'être bourgeois. Mais en réalité, on a un nombre de points qui sont des points déjà fixés avant 14.
Les bases arrières.
Voilà, la notion de base arrière. Fait aussi très très important que on n'a peut-être pas assez relevé, que je relève dans mon livre, c'est que c'est déjà avant 14 ce qu'on peut désigner les marginaux à l'échelle sociale, c'est-à-dire les gens, les groupes qui débarquent dans un pays, c'est-à-dire les immigrés qui n'arrivent pas à se rattacher à la culture du pays dans lequel ils sont entrés, et qui se retrouvent dans un état précisément où ils vont pratiquer le terrorisme. Et là, nous avons quelque chose qui est une sorte de fil rouge qui nous ramène en définitive de ces années que je considère comme les années de césure 1890-1900, qui sont des années extrêmement brutales pour le monde occidental, liées à l'industrialisation, et notre temps. Notre temps qui connaît des bouleversements non moins importants, et qui fait que les populations, j'allais dire, les plus faibles et les plus exposées dans la société, peuvent basculer dans le terrorisme.
Alors, il y a une définition que vous donnez, une sorte de bascule intellectuelle où vous expliquez que le fait, l'action, devient propagande.
L'action devient propagande tout simplement parce que cette action n'est plus simplement le fait de petits groupes, et c'est pour ça que je diffère, moi, d'un certain nombre d'analyses qui ont été faites à partir d'excellents ouvrages sur le terrorisme. Je diffère sur ce plan parce que, en fait, la propagande, c'est tout simplement l'instrument qu'on a créé à l'égard des masses. Et qu'en fait, on a recours désormais à des vecteurs qu'on utilisait évidemment dans le passé, mais qu'on va utiliser, je dirais, de façon beaucoup plus massive à une échelle extrême, c'est le recours à l'image, c'est-à-dire la photo. Ça veut dire qu'on va, sur le plan vestimentaire, utiliser toute une iconographie totalement nouvelle, toute une façon de penser l'habillement du partisan, celui qui est dans le mouvement, et qui va pouvoir se distinguer, et qui va pouvoir, ce que nous pouvons évoquer aussi pour le temps présent avec les islamistes, puisqu'il faut se conformer, je dirais, à un certain type de vêtements, à un certain type de pratiques dans sa vie quotidienne, pour pouvoir identifier et pour pouvoir aussi faire du prosélytisme. Donc la propagande est là, je dirais, le produit précisément de cette mutation qui correspond à ce fameux âge des masses que déplorait Ortega y Gasset, qui était un conservateur évidemment convaincu, comme vous le savez.
Donc il y a une sorte de cocktail, si vous me permettez l'expression, entre nous entrons dans l'âge des masses, et il y a un lien entre révolution, guerre et industrialisation.
Tout à fait. Il y a l'idée que va d'ailleurs reprendre Hermann Brock, à savoir que les masses sont perdues. Il y a une perte, je dirais, de sens, et malheureusement, cette perte de sens va être d'une certaine façon comblée par le recours à la personnalité autoritaire, et ça, Adorno avait bien montré cet aspect des choses, la personnalité autoritaire venant combler justement ce déficit en termes de perte de sens, et à partir de là, nous avons des masses qui vont adhérer à ces idéologies qui sont des idéologies érigées justement en sacrées, et effectivement, c'est l'âge où on va passer à ce qu'on appelle les religions de la politique, ou du politique, C'est-à-dire que le politique, dans des sociétés qui sont sécularisées, tend à remplacer le domaine du religieux que vous connaissez parfaitement.
Ce qu'il y a d'incroyable, en fait, dans votre ouvrage, c'est que ce que je disais là encore en introduction, c'est que notre perception du terrorisme, et on l'a vu au moment à la fois des attentats du 11 septembre, mais aussi des attentats en France, c'est que, à tort, on disait, on revient au Moyen-Âge, mais le Moyen-Âge était ne cultivait absolument pas cette violence, et vous montrez que c'est un fait moderne, et surtout, ce qui m'impressionne dans votre ouvrage, vous collectionnez le nombre d'actes terroristes. Voilà, page 62, entre 1880 et 1914, pas moins de 16 pays connaissent l'expérience d'attentats à la bombe et d'assassinats jusqu'en Australie.
Bien sûr. Donc, ça évoque précisément une crise systémique. Et non pas...
Il n'y a pas de fumée sans feu.
Et voilà. Et non pas simplement, je dirais... quelques accès de fièvre qui intéresseraient une ou deux sociétés. C'est l'ensemble du système occidental lié au capitalisme et à ses développements tumultueux qui génère cette forme de décomposition des sociétés traditionnelles et qui fait que un individu qui est perdu, qui se sent perdu... rappelez-vous, les ouvrages abondent, il y a les Déracinés de Barès, il y a toutes sortes de choses qui nous montrent que ces sociétés ne vont pas bien du tout, qu'elles sont malades.
Et là, je reprends un peu la liste, et si on se remet dans le contexte de l'époque, on est étonné de voir tant de projets, même d'assassinats. Je vous cite là encore, en mai 1878, on avait tenté d'éliminer Guillaume Ier, l'empereur d'Allemagne, à deux reprises. Guillaume Ier était sorti personnellement indemne de 4 attentats, Bismarck de 2, Guillaume II de 2 autres. La même année, le roi Alphonse XIII d'Espagne avait été lui aussi victime d'un attentat, etc., etc., etc. C'est un inventaire à la presse.
Tout à fait.
Absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas aujourd'hui qu'il y ait autant d'attentats sur des chefs d'État.
Tout à fait. Et ce qui est tout à fait aussi pertinent de relever, c'est que, comme vous avez pu le lire, très souvent, ceux qui commettent ces attentats viennent de l'étranger. Ils ont toute une logistique qui leur permet d'accéder au pays au dernier moment, y compris pour la malheureuse Sissi. Elle est victime, finalement, de toute une opération qui est une opération à caractère international. Nous sommes surpris aujourd'hui, nous célébrons entre guillemets, et nous constatons, nous revenons sur ces tristes événements du 11 septembre. Et il est évident que le 11 septembre, on a dit, c'est le terrorisme mondial, c'est la mondialisation, c'est la manifestation du terrorisme à l'échelle mondiale. Mais déjà avant 14... Moi, j'ai été surpris en écrivant ce livre pour constater précisément que le terrorisme fonctionne en réseau international. Le cas irlandais est extraordinaire. Il y a la branche américaine, il y a la branche évidemment irlandaise, il y a la branche qui sévit à Londres. Et il y a des Irlandais, il y a une diaspora irlandaise qui est très forte. Et je reviens assez souvent sur ce thème de la diaspora dans la matière de terrorisme. Je crois que c'est un des éléments aussi fondamentaux que on n'a peut-être pas assez pris, je dirais, en compte dans le long terme. Dans le long terme, on s'aperçoit que la diaspora existe avant 14, qu'il y a une diaspora arménienne, qu'il y a une diaspora irlandaise, qu'il y a une diaspora italienne, qu'il y a une diaspora allemande. Et que ces individus, pour des raisons qu'ils avancent comme essentielles, c'est-à-dire faire la révolution, eh bien, vont jouer sur ce registre de la diaspora pour pouvoir avoir la base arrière, pour pouvoir intervenir et fomenter ces fameux attentats.
Comment réprimer, sur le plan du droit international, le terrorisme ? Est-ce qu'il y a un corps juridique qui se met en place en même temps que se développe ce terrorisme?
En réalité, on s'aperçoit que Lemkin, lui, comme vous le savez, va mettre au point, si je puis dire, agencer le concept de génocide. En matière de terrorisme, en fait, le droit international, le droit a balbutié. on ne peut pas dire qu'il y ait eu une doctrine avant la Première Guerre mondiale. Ah, je dirais même durant l'entre-deux-guerres, on s'aperçoit que cette question du terrorisme perturbe les relations internationales, tout simplement parce que vous avez des pays qui, eux, pratiquent déjà le terrorisme interne, le cas de la Russie soviétique, le cas de l'Allemagne nazie, le cas de l'Italie fasciste, et que dans ces conditions, entre démocratie et dictature, comment on pouvait aboutir à une condamnation et même à une énonciation de ce qu'était ce crime de terrorisme. Donc là, on s'est retrouvé dans une situation extrêmement complexe, quand même qu'on va retrouver aussi après 45. On va se retrouver dans une situation où on aura beaucoup de difficultés à faire émerger, je dirais, cette question du concept de terrorisme. C'est quoi le terrorisme ? Question. Et vous avez vu, et vous le savez aussi bien que moi, que vous prenez n'importe quel livre d'histoire du terrorisme, il essaie de vous donner une définition du terrorisme. C'est tellement protéiforme que on reste toujours sur notre faim à cet égard. Donc je me suis gardé quand même de faire une définition de type rigide du terrorisme. J'ai préféré voir de quelle façon il y avait, je dirais, des espaces de terrorisme. Comment ces espaces étaient agencés, comment ils fonctionnaient, quelle était la structure, quels étaient les agents. Est-ce qu'il y avait des agents intérieurs, des agents extérieurs? Est-ce qu'il y avait des puissances engagé pour le soutien de ce terrorisme? C'est plus cette dimension-là qui m'a intéressé dans ce livre.
C'est étonnant ce côté protéiforme, parce que autant pour le nationalisme, le terrorisme concerne autant le nationalisme que l'internationalisme.
Tout à fait.
Et le nationalisme, à l'origine, est de gauche, puis il passe à droite à la fin du 19e.
Tout à fait. Tout à fait. Il y a un glissement, et il y a un glissement qui s'opère. Il y a un glissement qui s'opère aussi, puisque la question nationale devient quelque chose de central dans le monde occidental. Et puis, il y a, pour moi, donc dans cette question du rapport au terrorisme, il y a la machine d'État. La question d'une performance, de créer un État qui soit éminemment performant pour faire face, on n'a pas encore évoqué cette question, aux exigences de la modernité. C'est quoi la modernité? C'est-à-dire qu'il faut un État rationnel, il faut un État qui fonctionne sur un territoire, un État qui dénombre ses sujets, un État, donc, qui veut aussi nationaliser ses sujets. Et là, on revient à un certain nombre des préoccupations de Georges Moss que vous avez évoquées au début de votre propos. Ça veut dire nationaliser ses sujets. Ça veut dire les intégrer complètement, et ça veut dire que les minorités qui, elles, ne souhaitent pas entrer sous le joug de cet État, qui devient de plus en plus oppressif, eh bien, vont basculer, pour certaines d'entre elles, dans le terrorisme.
Dans le terrorisme. Oui.
Donc la modernité, dont on nous dit très souvent que c'est toujours dans le sens du progrès, c'est aussi une machine à broyer les identités. Et nous le voyons bien aujourd'hui. Maintenant, durant cette période de la globalisation, ce n'est pas aussi un hasard si nous avons une série de rebondissements depuis le début du XXIe siècle relatifs au terrorisme, tout simplement parce que cet écrasement des identités se fait maintenant à l'échelle planétaire.
Alors, je reviens à la chronologie, quand même, à l'époque de la Grande Guerre. Quelles sont les conséquences de la Grande Guerre? Mossé voyait, dans cette Grande Guerre, une banalisation de la mort. Cette banalisation de la mort se retrouve dans le terrorisme.
Elle se retrouve dans le terrorisme. Elle existait déjà à l'état, je dirais, latent, mais avant la Première Guerre mondiale, pour les terroristes convaincus. Mais je crois que le fait nouveau qu'instaure la Première Guerre mondiale, c'est que la Première Guerre mondiale a créé d'immenses machines à tuer au quotidien, et que des individus, comme l'a bien montré l'historiographie allemande après Georges Moss, je pense en particulier aux travaux de Karl Dietrichsbacher, qui montrent au fond que vous avez des sociétés, et en particulier la société allemande, où ceux qui sortent du front vont appliquer l'éthique de guerre qui les amenait à tuer au quotidien, va les entraîner vers une application de cette éthique de guerre sur les valeurs de la société civile et supplanter à terme ces valeurs de la société civile. Ce qui fait que vous avez une série d'individus qui sont inaptes désormais à entrer dans cette société civile et qui sont déçus aussi par cette société civile, qui sont déçus par la société politique. L'Allemagne, on sait, le désastre. Inutile de rappeler ça. L'Italie, le mythe de la victoire mutilée. Donc vous avez tous ces éléments conjugués qui font qu'un certain nombre d'individus basculent et basculent. On le montre peut-être pas assez, mais ce sont des gens qui vont basculer dans le droit commun et qu'on va retrouver dans le politique, qu'on va retrouver dans les masses d'individus qui servent, je dirais, à la constitution de ces États autoritaires et de ces États totalitaires, que ce soit dans l'Europe de l'Est, comme évidemment dans les grandes dictatures, l'Allemagne et l'Italie. On retrouve cet aspect des choses.
Et donc les totalitarismes vont se former sur ce terreau de la brutalisation.
Tout à fait, sur la brutalisation, sur le fait, mais vous savez, hein, si on fait des parallèles avec notre temps présent, nombre de soldats qui sont de retour d'Afghanistan, vous savez déjà avec le Vietnam, certains, malheureusement, on les a retrouvés dans le terrorisme intérieur américain. C'est-à-dire l'incapacité, d'une certaine façon, de s'adapter à la société, j'allais dire, normale de la vie civile. Donc, il y a là un très très gros problème. Je crois qu'à un moment donné, et c'est un des problèmes qu'il faut se poser, c'est le devenir de nos sociétés occidentales. Nous sommes entrés dans un monde qui va de plus en plus vite, et on a l'impression que le progrès technique, nous le maîtrisons de moins en moins, et que nous sommes embarqués dans une histoire qui nous échappe. C'est pour ça que j'avais mis aussi en exergue la prose de Hegel en disant, au fond, les hommes, que savent-ils de leur histoire ?
L'URSS, enfin la Russie soviétique, se distingue par le fait qu'elle est un État terroriste, c'est-à-dire qui pratique la terreur. Vous décrivez tous les réseaux internationaux. Et parallèlement, ce n'est pas le moindre des paradoxes. La Russie soviétique doit elle-même faire face à des terroristes en son sein.
Tout à fait. C'est un État qui, d'abord, au départ, le terrorisme, et j'avais retrouvé des textes de Litvinov là-dessus intéressants dans le livre que je relate, l'URSS se défend évidemment de pratiquer un terrorisme d'État, et dit qu'elle condamne extrêmement sévèrement le terrorisme. Mais comme vous le savez, dans les États totalitaires, il y a ce fameux dédoublement de l'appareil d'État, il y a la vitrine légale, et puis il y a ce qui se passe dans la réalité concrète, je dirais, et qui fait que, précisément, le terrorisme a été réprimé avec la plus grande sévérité, le terrorisme entre guillemets, c'est-à-dire les opposants de Staline, comme vous le savez, c'est-à-dire tous ceux qui étaient opposés au régime, d'une façon ou d'une autre, étaient taxés de terroristes. Donc ils étaient embarqués et ils partaient dans des conditions qui étaient absolument dramatiques, comme vous le savez. Le terrorisme intérieur, finalement on le voit bien aussi avec Poutine, le terrorisme, aujourd'hui, est une réalité du régime. C'est là qu'on voit qu'au fond, les catégories entre l'État et le terrorisme, il y a un vaste échange qui se fait à travers l'histoire et qui fait que on va retrouver ce couple, j'allais dire ce couple infernal, c'est-à-dire les échanges entre les deux avec des conjugaisons parfois qui sont très bizarres, avec des alliances aussi qui sont très bizarres. Ça peut exister, tout simplement parce que c'est une question de logique de front. Qu'est-ce qui est le plus important à tel moment, lorsqu'on pratique le terrorisme? Pour reprendre une fameuse distinction de Mao Tse-Tung, il s'agit de savoir à quel moment on a affaire à l'ennemi principal ou à l'ennemi secondaire. Et donc, se donner les moyens de lutter par rapport à ça.
Alors il y a énormément. Je sens que les auditeurs, certains auditeurs seront frustrés qu'on ne cite pas certains événements de l'histoire du terrorisme. On ne peut pas tous les citer. Ils sont multiples. Ils correspondent à des idéologies. On a parlé de nationalisme. On a parlé d'internationalisme. On renvoie les deux dos à dos. Mais je souhaiterais. On n'a pas parlé, par exemple, du premier camp de concentration. Vous en parlez 1896, si mes souvenirs sont bons.
Tout à fait.
En Prusse.
Oui, enfin, c'est pas en Prusse, je crois que c'est à Cuba. Mm. C'est un général prussien qui inaugure. Et effectivement, le premier camp de concentration. Et là aussi, ça fait appel à une mutation dans l'armée qui considère désormais, au moins dans certaines armées, je dis pas que ça relève de toutes les armées, mais qui considère qu'un civil est l'équivalent d'un militaire. Et nous avons sur ce point tout ce qui va se passer en Afrique, dans la République d'Orange, etc., dominée par les Anglais, les Britanniques, qui sont pourtant, je dirais, la nation tutélaire de la démocratie, vont quand même pas hésiter à faire des camps de concentration. Mmh. On va y concentrer des femmes, des enfants. Mmh. Au nom justement de ce principe qu'une femme, un enfant peuvent être des ennemis à part entière, et donc les enfermer.
Ce qui est terrible.
C'est terrible.
Il y a un autre moment, évidemment, la guerre civile espagnole, c'est une sorte de laboratoire, c'est absolument tragique.
C'est tragique.
Je le dis là encore aux auditeurs, il est absolument pas, le but n'est pas de minimiser le terrorisme effroyable pratiqué par l'État franquiste entre 39 et les années suivantes, finalement, au moins 50 000 exécutions. Mais je souhaiterais m'arrêter sur le drame de Paracuellos que vous décrivez dans votre livre.
Alors ça, c'est un drame, au fond, qui est resté occulté, puisque, comme vous le savez, la dictature de Franco a été extrêmement longue, et du côté du monde communiste aussi, il y a eu des phénomènes d'occultation qui ont été aussi extrêmement importants, et il a fallu effectivement un certain nombre d'ouvrages fondamentaux pour faire sauter. Et c'est vrai que nous sommes, et dans certains pays, il y a toujours un certain retard à reconnaître un certain nombre de crimes. Justement, sur cette affaire de Paracuellos.
Donc, Paracuellos, c'est dans les...
Voilà, c'est pour près situer, de Madrid. Voilà, c'est tout près de Madrid, c'est la banlieue de Madrid. Et au moment, à un des moments les pires de la guerre civile, où justement, donc, il y avait une avancée, il y avait des risques de débordement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un certain nombre de membres de l'armée franquiste qui étaient donc détenus dans des prisons. Et nous avons un phénomène qui est comparable à ce qui s'est passé, je dirais, à double titre. À la fois, on peut relever dans notre mémoire française ce qui s'est passé en septembre 92, hein, avec les massacres dans les prisons. Et également, on peut évoquer ce qui s'est passé à Katyn. Les historiens espagnols, certains historiens maintenant disent que c'est une anticipation de ce qui se passe à Katyn. C'est-à-dire l'idée que les membres des prisons, ceux qui étaient là détenus pour faits militaires, devaient être exécutés en masse. Et c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé avec des personnages pourtant qui ont eu devenir politique, puisque c'est Carrero Blanco, le futur dirigeant du Parti communiste espagnol, qui à l'époque, si mes souvenirs sont bons, a 18 ans, est le grand prescripteur de ces massacres sur les ordres de Moscou. Ce qu'il y a de terrible dans l'affaire espagnole, parce qu'on pensait que c'était un privilège des nazis, ce que j'ai découvert, moi, sur le plan des archives, rares archives que nous avons, c'est que les agents soviétiques du NKVD qui étaient sur place, en fait, ont inventé ce processus pour faire disparaître les corps, c'est-à-dire une chambre, une crématoire portatif. Et probablement qu'une des grandes victimes très connues, Nin, qui était un dirigeant du POUM. Le POUM, je vous rappelle, c'est un parti qui était évidemment très opposé aux franquistes. Eh bien, son corps n'a jamais été retrouvé, tout simplement parce qu'il a été brûlé, comme le corps de nombre d'opposants. Donc, certaines familles demandent encore, et le massacre, si je me trompe pas sur le chiffre, relève de 50 000 morts à peu près. Donc, c'est pas une plaisanterie, hein. C'est pas, si je puis dire, en matière de massacre, à partir du moment où on tue un individu, c'est déjà largement suffisant, mais quand on atteint ces effectifs, ça devient précisément un crime d'État.
Alors vous évoquez hein, bien évidemment aussi le terrorisme nazi, le terrorisme fasciste. Nous avons parlé de l'Internationale rouge, mais il y a aussi l'Internationale noire.
Il y a une Internationale noire qui est très efficace, et qui renvoie, je dirais, à quelque chose de central, justement, qu'avait développé, je disais tout à l'heure dans l'introduction, Nolte et puis Osborne. Et Osborne, Nolte pour la guerre civile, Osborne pour l'âge des extrêmes. C'est-à-dire que nous sommes passés dans le monde, un monde qui est dominé par le primat d'idéologie. Et au nom de ce primat de l'idéologie qui relève du sacré, on n'hésite absolument pas, et on a la conscience totalement tranquille, pour exécuter, pour liquider tous les opposants, pour liquider les dissidents, au nom de cette idéologie purificatrice. C'est l'idée qui est purificatrice, et qui autorise le massacre. Mais cette fois-ci, avec le totalitarisme, nous sommes dans un cadre où c'est l'État qui est le prescripteur, et qui met au point, que ce soit pour, je dirais, le fascisme et le nazisme, comme pour le communisme, qui établit la règle et qui fixe les quotas, le nombre de personnes à exécuter. Et cette question d'idéologie, au départ, je pensais pour ma part qu'elle allait s'estomper justement avec... je dirais la fin du communisme, et que après 45 on allait aussi réduire ces aspérités, mais en réalité on s'aperçoit que l'opposition, le développement du communisme après 45, l'avancée de Staline en Europe va décupler l'anticommunisme. Et on va se retrouver, en revanche, dans un nouveau dilemme, soit on est anticommuniste, ou soit on est farouchement communiste. Et à partir de là, ça veut dire que cette idéologie continue de faire ses ravages au nom du sacré, de part et d'autre. Et les Américains, les États-Unis vont s'enfermer dans cet anticommunisme. Ça va devenir une forme de paranoïa, mais à une échelle invraisemblable, invraisemblable, qui va conduire en particulier les États-Unis à avoir une politique vis-à-vis de la Russie soviétique complètement aberrante, c'est-à-dire d'enfer, si vous voulez, un diable permanent avec une force toujours aussi imposante. Et en particulier dans cette affaire de l'Afghanistan, on va aboutir au fait que on va se dire c'est une bonne occasion de liquider le communisme, et qu'en même temps, liquidant le communisme, les Américains y sont arrivés, comme vous savez, mais ils ont fait surgir une autre menace, cette fois-ci, une menace qui est le terrorisme à multifacettes à l'échelle internationale. Il y aurait beaucoup à dire sur le problème de cet antagonisme entre Russes et Américains.
Alors vous y consacrez beaucoup de pages. Le terme d'islamisme apparaît assez tardivement dans votre ouvrage.
Oui.
Il est lié à l'émergence des nationalismes arabes?
Il est lié d'une façon, je dirais, oui, il est lié, mais il est plus lié à l'échec des nationalismes arabes, à l'échec d'hommes comme Nasser, qui, en définitive, était, j'allais dire, acquis à l'idée d'un État à l'occidental, qui fonctionnerait à l'occidental, et qui ferait que, précisément, on allait accéder à ce fameux âge de la modernité qu'avait connu l'Occident, et qu'on allait pouvoir emprunter le même chemin. En réalité, Nasser va aboutir à une impasse sur ce plan. Et on voit très bien ce qui se passe, et c'est pour ça que je parle pour ma part d'un choc en retour par rapport à l'Occident pour le reste du monde. Pourquoi ? Parce que le reste du monde va connaître une immense déception par rapport aux deux recettes qu'avait concocté l'Occident. La version marxiste, qui aboutit à un échec cuisant, il suffit de se porter sur l'Algérie, ne serait-ce que pour prendre cet exemple, et là, je dirais, l'idée d'une démocratie qui fonctionnerait à l'occidental et qu'on pourrait, je dirais, imposer à ces pays qui sortent de la colonisation, au moment de la décolonisation, et faire, au fond, des pays qui nous ressembleraient un peu à grands traits et, naïvement, qui seraient sur la voie du progrès. Or, en réalité, ça n'a pas fonctionné. Parce que, de la même façon, ça signifiait qu'on annihilait leurs racines profondes. Et que par là même, on préparait le terreau de quelque chose de redoutable, qui est l'islamisme. C'est quoi l'islamisme? Si vous prenez les grands spécialistes actuels qui travaillent sur ces sujets, ils vous disent tous la même chose, l'islamisme. Ça ne relève plus de la religion. C'est une idéologie politique. C'est une façon de contester l'Occident. Et si on regarde, et c'est aussi un des aspects de mon travail, si on regarde les choses, la révolution islamique, comment elle se fait? Cette révolution islamique, elle se fait à travers une série d'instruments et de catégories. Et si on prend en particulier le cas l'imam Khomeini, l'imam Khomeini, qui au départ est démuni sur le plan de la science politique pour construire son État islamique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser, il va acclimater, et ça c'est quand même quelque chose de remarquable de sa part, un certain nombre de catégories. Le thème de la révolution, le thème du parti, le thème de l'avant-garde avec les mollahs. Et il va réussir son coup, si je puis dire, de cette façon-là. Sans les catégories politiques de l'Occident, la révolution islamique n'aurait pas été
n'aurait pas eu.
Donc, nous sommes pas, si vous voulez, vous avez évoqué tout à l'heure Huntington, guerre des civilisations, c'est bien gentil, en réalité, si on regarde les choses,
je ne le pouvais pas.
il y a un échange en permanent entre civilisations. Mais des civilisations qui sont en, je dirais, en conflit permanent. Pourquoi? Parce qu'ils luttent pour l'universel. Et c'est ça qui est de redoutable dans l'islamisme. C'est que la revendication de l'islamisme, c'est de changer l'homme à l'échelle de l'universel, et non pas simplement pour le monde arabe et le monde musulman.
Alors, vous n'épargnez pas non plus les puissances démocratiques, notamment les États-Unis, et puis, disons-le, carrément la CIA. Aujourd'hui, est-ce que ces États démocratiques, de votre point de vue, n'ont pas abandonné finalement cette fibre qui en faisait une de leurs caractéristiques par le passé?
C'est-à-dire quelle fibre?
Vous montrez que certains États démocratiques ont su utiliser le terrorisme. On parlait tout à l'heure de l'international noir.
Oui.
Est-ce que aujourd'hui, j'allais dire pour voir un peu vers l'avenir, est-ce Est-ce qu'au fond, vous avez une vision optimiste des choses par rapport à ces États démocratiques, ou bien plutôt pessimiste?
Moi, je suis plutôt... je me définirais comme un pessimiste actif. C'est-à-dire, en fait, je pense que nos sociétés sont menacées, qu'il y a là... Et je rejoins, si vous voulez, justement, un certain nombre de conclusions hein, qui ont été émises par des spécialistes beaucoup plus éminents que moi, hein, à savoir l'existence d'une fracture dans toutes les sociétés occidentales, la fracture étant liée justement au...
Entre le global et le local.
Entre le global et le local, entre les valeurs, où là, il y a vraiment des problèmes qui sont considérables sur le plan de la quotidienneté. Hein, il faut pas non plus se leurrer. Là, les problèmes sont réels. La seule façon qu'il y aurait de s'en sortir, entre guillemets, ce serait de créer un islamisme démocratique, entre guillemets, c'est-à-dire qui accepterait le politique. Or, si nous situons dans l'islamisme, n'oubliez pas la devise des frères musulmans, les frères musulmans disaient, de toute façon, le politique, c'est aussi la religion, tout est politique, tout est religieux. Donc, à partir de ce moment-là, ça devient extrêmement compliqué. Soit vous acceptez une forme d'autonomie du politique, et vous conservez cet aspect, c'est-à-dire, il y a le politique... Et il y a notre façon de vivre, mais dans le Coran, les choses aussi sont étroitement imbriquées. Et ça, c'est très compliqué.
Eh bien, merci beaucoup Didier Musildlac. L'atelier occidental du terroriste, les racines du mal, un livre, je ne pense pas l'avoir dit, paru chez Arquet Éditions, que je vous conseille, chers auditeurs, et c'est un livre à lire aussi avec le livre sur la brutalisation des sociétés européennes, qui est un indispensable, on va dire un classique de la pensée politique sur la violence.
Christophe Biquet, c'est moi qui vous remercie pour cet entretien.
Merci et à très bientôt. Merci pour votre fidélité, chers auditeurs, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.